Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois? Non. OK. En tout cas, bienvenue à tous. Encore une fois. Bienvenue à ceux qui reviennent d'Allemagne. Il y en a qui ont été au mariage de Daniel Genet. Toi, tu étais là. Ben était là. Est-ce que Christian était là aussi? Oui, hein? Ben oui. Toi, t'étais-tu là? T'étais pas là. Bon. Puis, c'était-tu le fun? Puis, pouvez-vous témoigner qu'ils sont vraiment mariés maintenant? Deux fois. Parfait, parfait. Bon, et ils seront en ville la semaine prochaine, donc certains auront l'occasion de les voir. Daniel et... Renata. Oui, voilà. Alors oui, merci Cheryl d'avoir mentionné les GBU. Donc oui, le travail parmi les étudiants continue. Rapidement, on a eu une belle année l'année passée et on a une nouvelle lettre de nouvelles qui est sortie cet été. Je vais devoir l'amener à l'église et l'accrocher au babillard. On a de belles équipes de bénévoles dans certaines villes qui se sont organisées, qui ont commencé un outreach sur les campus. Et c'est encourageant. On a deux projets, enfin, oui, au niveau des publications. On va faire une distribution cette année d'un livre, l'Évangile de Luc, et puis le livre des Actes. Vous savez que c'est le même auteur qui a écrit ces deux livres, Luc. Donc, Luc tome 1, Luc tome 2, puis les deux ensemble donnent vraiment toutes les origines du christianisme. Donc, c'est quelque chose qu'on espère va intéresser les étudiants de cégep et d'université à connaître la vraie histoire. Et aussi, on va publier un livre d'apologétique qui existait déjà dans un format in-house. Là, on va vraiment le publier. Et ça, c'est un outil apologétique, veut dire comment répondre aux questions difficiles. Mais c'est un outil pour les étudiants chrétiens qui témoignent et puis à qui on pose des questions difficiles. Donc, c'est comme une ressource qu'ils peuvent étudier à la maison. Un petit manuel de poche. Je vais vous le montrer quand il sera publié. Et il peut vous être utile aussi. C'est écrit par Peter Kreeft, un professeur de philosophie chrétien à l'université, au collège de Boston, et donc qu'on a traduit en français. Je sais qu'il y en a qui font des dons au GBU à travers l'Église. Merci beaucoup. S'il y en a qui aimeraient contribuer au projet des livres, les deux dont je vous parle, qui sont les projets de cette année, vous, c'est bienvenu. Mentionnez peut-être sur l'enveloppe de dons GBU-livre, et puis ce que l'équipe ici pourra me faire parvenir ça. Mais il faut pas comme déduire vos dons de la dîme pour donner au GBU. Là, ça, moi, je serais pas content parce que je veux que l'Église, on a des gros besoins. Et en plus, le GBU va se faire taper dessus par l'Église si on fait ça. Donc, c'est seulement du « en plus » si c'est possible pour vous. Mais surtout, priez pour nous. Priez pour le ministère Campus qui continue à grandir, mais avec beaucoup de difficultés quand même parmi les Québécois de souche, comme c'est le cas pour les Églises aussi. Donc, prions que Dieu touche le cœur des non-chrétiens pour vouloir découvrir c'est quoi l'Évangile, lire le livre Luc-Acte, et puis aussi que les étudiants chrétiens aient le courage de se joindre au groupe, parce que ça aussi c'est un défi, parce que c'est un an plus de leurs études. Donc c'est vraiment un sujet de prière qui continue pour cette année. Si vous connaissez un étudiant qui voudrait se joindre à un groupe, donnez-leur mon courriel. Ça va me faire très plaisir de lui expliquer comment ça fonctionne. OK, la fenêtre publicitaire est terminée. J'aimerais mentionner aussi que nous allons avoir, oui? Merci beaucoup. Oui, donc, quelles sont les preuves ou les arguments par rapport au fait que nous sommes dans un monde créé par un créateur, hein? C'est donc ICR.org et il y a d'autres sites aussi qui traitent de ce sujet et d'autres. Et le petit livre aussi a un petit chapitre là-dessus qui est bien fait. Alors, merci Jean-François. Et la Sainte Cène, quand j'étais dans cette situation, il y a 3-4 mois, je pense que c'était en mai, je prêchais le dimanche où on avait le repas du Seigneur et j'avais prêché un message sur le repas du Seigneur, sur le thème et la signification. Donc, j'ai dit, mais je vais faire une révision aujourd'hui. Oh, ça se fait pas tellement hein, dans les églises, révision d'un sermon déjà prêché. Mais moi, comme j'enseigne des cours, on fait des révisions souvent, j'ai dit, mais pourquoi on ferait pas une révision un dimanche matin? Et donc, on avait en mai, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, on avait pris le texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, qu'on va pas lire. Paul est en train de réprimander l'Église de Corinthe qui célèbre le repas du Seigneur d'une manière très mal, très indisciplinée. Et c'est rendu au point, il dit, c'est tellement mal fait que c'est plus le repas du Seigneur. Vous l'appelez repas du Seigneur, mais c'est plus ça. Et on s'était dit, même si le ton est sévère, il faut pas que nous, on ait peur du repas du Seigneur. Mais qu'on comprenne les leçons que Paul veut nous dire. Il faut que ce soit un repas joyeux, pas un repas triste et sévère. Mais il y a une préparation minimum de nos cœurs et de nos têtes pour participer. Donc surtout, c'est de se souvenir de la vraie signification du repas. On avait dit qu'on approche de la table toujours avec un respect pour Dieu et un respect un petit peu pour comme si on était, il y a une dimension, c'est un peu comme des funérailles, dans le sens où on commémore la mort de quelqu'un, la mort de Jésus-Christ. Et c'est vrai que des funérailles, moi j'ai déjà assisté à des funérailles joyeuses parce que la personne était chrétienne, sa vie était une vie heureuse, donnée à Dieu et maintenant elle était libérée de la souffrance et tout ça. Mais il y a quand même toujours un respect dans les funérailles. Hein? Et Paul, je pense, essaye de nous dire ça. En même temps, il met l'accent sur le côté joyeux. Parce que notre défunt, il est ressuscité, n'est-ce pas? Et il est la force de nos vies, il est présent avec nous. Donc la joie de notre salut, et puis surtout, puis c'est sans doute mon point principal, quand Paul dit aux Corinthiens, ceux qui mangent sans discerner le corps, puis là, il les menace. Et on avait vu que le mot « corps » dans le texte de 1 Corinthiens, ça se réfère au corps de Christ, c'est-à-dire vraiment la communauté chrétienne. Donc, en mangeant, il faut pas, comme les Corinthiens, être préoccupé par des choses égoïstes, mais vraiment, c'est un repas où on reconnaît qu'on a été unis ensemble par Christ crucifié et ressuscité. Il a fait de nous une famille. Et c'est ça c'est important. Donc, voilà un autre élément de notre préparation. Puis, je voulais juste vous lire un verset, un texte vraiment intéressant, un texte qui a été écrit un petit peu plus tard que le Nouveau Testament. Ça s'appelle la didaké ou la catéchèse, l'enseignement, qui nous dit comment les premiers chrétiens, un petit peu après les apôtres, comment ils célébraient plusieurs choses dans l'Église, dont la Sainte Cène. Et une phrase qui disait, en tout cas selon la Didaché, quand il célébrait la Sainte Cène, donc vers l'an 80 ou 90 après Jésus-Christ, eux, ils disaient, nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as accordée par Jésus, ton serviteur. Puis après ça, il disait, il levait le pain, puis il disait, comme ce pain rompu, d'abord éparpillé sur les collines, a été recueilli pour ne faire qu'un, qu'ainsi ton Église se rassemble des extrémités de la terre dans ton royaume. Okay? Donc, comme ce pain vient du blé et de tous les minéraux et des semences de l'eau qui a fait pousser le blé d'un peu partout sur les collines et qui a été réuni dans le pain, de la même manière, en Jésus-Christ, des gens du monde entier sont en train d'être réunis en un seul peuple. Et c'est vrai que notre Église représente cela. Je vois un Libanais là-bas, je vois des Africains là-bas, et des Haïtiens ici, et des Québécois là, et des Antillais là, et peu importe, des Canadiens, des Américains, des oh oui, c'est ça. Excusez-moi, c'était mon idée de départ, puis j'ai oublié, je me suis emporté. Les Suisses qui sont parmi nous, et des Américains, et bienvenue aux Suisses. Et est-ce qu'il y a des Suédois? Oui. Pardonnez-moi pour ceux que j'oublie, mais nous devons discerner ou reconnaître le corps, manger en pensant aux autres, en étant reconnaissants les uns pour les autres. Et donc, on va, avant de passer à mon deuxième sermon, c'était juste une révision, ça. On va prendre un moment, justement, pour reconnaître le corps, pour se saluer fraternellement maintenant. Donc, prenons 2 minutes pour serrer la main à notre voisin et l'accueillir au nom du Seigneur.
Bon, OK tout le monde. OK tout le monde, on pourra poursuivre après la célébration. Merci tout le monde.
Salut, ça va?
Oui. Oui, OK. Asseyez-vous tout le monde. Asseyez-vous. Oui, hein? Merci, c'est excellent, ça me réjouit. Merci de vous asseoir. Jérémy, c'est fini. Michel Hull, un peu de discipline, s'il vous plaît. Carmelo, il faut s'asseoir. Oui, hein? Comment est-ce qu'on peut réprimander une Église qui reconnaît le corps? Hein? C'est très bien. Ah, voilà, du pain qui est bien, très bon à manger. C'est merveilleux. Et voilà, OK. Peut-être que oui, c'est le temps de passer à notre autre sujet. Je voulais parler ce matin de la résurrection, qui fait aussi partie de ce qu'on commémore indirectement dans le repas de la Cène. C'est sûr que l'accent premier, c'est la mort du Christ, son sacrifice pour nous. On peut dire aussi son sacrifice à ma place. Hein? C'est quand on réalise que Jésus, c'est mon substitut pour que moi, j'ai le pardon et la vie. On a compris on va dire, l'élément central de l'histoire de l'histoire du monde, l'histoire de Dieu, cette crucifixion, c'est ma vie. Mais il y a la résurrection qui donne toute la puissance à ce repas et à cet événement. Vous savez que les premiers chrétiens ont assez naturellement, ils ont fait une genre de transition que leur jour de célébration qui était dans le milieu juif où ils ont commencé, c'était le sabbat, le samedi. Ils ont mis l'accent sur le premier jour de la semaine ou le dimanche. Pourquoi? Parce que c'était pour commémorer à chaque semaine la résurrection. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et c'est intéressant, ça, c'est le fait que on commence notre semaine. Hein, faut penser qu'aujourd'hui, c'est pas la fin de la semaine passée. C'est le début de notre semaine. Nous, les chrétiens, on commence la semaine, notre semaine, avec le repos, la célébration, la communauté. C'est le fun quand même. On commence avec le party et puis on va travailler le lendemain. C'est bien, non? C'est comme une manière différente et plus amusante de vivre notre vie. C'est ça. La résurrection donne la puissance à notre vie chrétienne. Pourquoi? Mais entre autres parce que Jésus est vivant, tout simplement. Autrement dit, devenir chrétien, c'est quand quelqu'un rencontre le Jésus qui est vivant, le Jésus qui est ressuscité, cet être-là devient une réalité dans sa vie. Et depuis 2000 ans, ce Jésus ressuscité, il se promène sur le globe, enfin, il est partout parce qu'il est Dieu, mais il agit, c'est comme s'il se promenait, et depuis 2000 ans, il touche des cœurs, il aide son Église à être des témoins, et des gens continuent à être convaincus qu'il est vivant et qu'il les appelle à devenir ses disciples. Et quand je pense à ma propre vie, je peux dire que oui, Jésus est ressuscité il y a 2000 ans, mais moi, qui habitais à Gatineau, j'étais un petit enfant et mes parents, à leur manière, ils ont commencé à me parler de Jésus. Ils étaient dans une église assez traditionnelle, mais ils ont quand même fait l'effort de me faire connaître qui était ce Jésus à travers ce qu'eux connaissaient. Ça a eu un certain impact dans ma vie. Et puis, plus tard dans la vie adulte, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont expliqué d'une manière peut-être plus précise comment je pouvais devenir chrétien, comment je pouvais rencontrer ce Jésus ressuscité et carrément l'inviter dans ma vie, faire partie de sa vie. Et par sa grâce, je peux dire que je l'ai rencontré. Il m'a parlé, il a un impact dans ma vie, et c'est un peu ça le message de notre Église pour tous nos visiteurs, pour tous ceux qui viennent depuis longtemps. Tu peux rencontrer ce Jésus ressuscité, il peut être au centre de ta vie, et sa puissance de résurrection peut agir dans ta vie, t'aider à t'en sortir de tes problèmes. Tes problèmes de tous ordres, problèmes de trouver du travail, problèmes de santé, problèmes de dépression, problèmes de solitude, problèmes de famille. Jésus a été connu, il est connu pour vraiment aider les gens, non seulement à s'en sortir, mais à devenir des témoins, des lumières là où ils sont. Tantôt, on était dans le groupe de prière en bas, les sentinelles de prière, qui sont là à tous les dimanches matins. Et Et oui, moi je suis arrivé ce matin, mais pas mal en retard. L'heure du début, c'est 9h, hein? C'est 9h, oui. 9h15, OK. C'est pour moi que je pose la question parce que je suis arrivé en retard, mais une des prières qui avait été dite, c'est dans ce Québec, un peu de, on va dire, de ténèbres, dans le sens où on vit dans un pays qui a été frappé par les... on a dévoilé la corruption dans tellement d'institutions mais Jésus ressuscité peut aider chacun de nous à être des gens droits, à être des gens qui apportent un bon témoignage dans leur milieu. Et ça va être plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres, parce qu'ils travaillent dans des contextes où la malhonnêteté peut-être est très répandue. Et je me dis, oui, Christ peut t'aider à rectifier ta propre vie, puis à être un témoin. Mais il est à l'œuvre et des millions l'ont suivi. Et ça, c'est parce qu'il est vraiment ressuscité par la puissance de Dieu. Ah, c'est le mur. OK, d'accord, mais c'est merveilleux. Wow, OK. Formidable. Ça, c'est-tu la famille Tracy qui font... Oh, wow. Hey, ils sont forts. Ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, je voulais mentionner qu'il y en a qui vont dire, et ça c'est juste une parenthèse, il y en a qui vont dire, oui, mais la foi dans la résurrection, c'est un mythe qui s'est développé avec le temps dans le christianisme. Puis en fait, c'est pas vrai. Dans le sens où, quand tu regardes les textes des premiers chrétiens, les épîtres de Paul, qui sont les plus anciens écrits chrétiens qu'on connaît, déjà l'épître aux Thessaloniciens, la première, qui avait été écrite peut-être 15 ans après les événements de la mort et de la résurrection de Jésus, Paul dit aux Thessaloniciens, vous vous êtes convertis à Dieu, vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Donc, dès le début, on voit par des textes qu'on peut dater c'était quoi le message central des chrétiens? Ce Christ est ressuscité, il peut transformer vos vies. Et une question que je voulais considérer avec vous, comment est-ce que ça se passait, cette transformation au tout début? Comment est-ce que les tout premiers chrétiens, en fait, on va regarder les toutes premières chrétiennes, en fait, vous allez voir pourquoi je dis ça, ont été frappés par ce message de la résurrection. Et je pense que ce qu'on va regarder peut nous aider, nous, dans notre vie d'aujourd'hui. Nous qui sommes des disciples à la suite des premiers. Hein, c'est une chaîne de témoins et de disciples qui remonte au début, puis c'est le même Seigneur ressuscité qu'on rencontre et qu'on est en train de suivre. Marc 16 et les versets 1 à 8, c'est ce que j'aimerais qu'on lise maintenant. Marc 16, les versets 1 à 8. Ceux qui ont leur Bible, je vous demande de trouver Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Et ceux qui n'ont pas votre Bible, bien, écoutez attentivement. Puis on va prier. Ô Seigneur Dieu, ouvre les oreilles de nos âmes, les yeux de notre cœur, pour qu'on puisse voir et entendre ta parole ce matin. Merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Christ. Amen. Marc 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, hein, évidemment, on est rendu après la crucifixion, après l'ensevelissement, la fin de semaine terrible où Jésus était dans le tombeau. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? » Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Effroi, c'est un autre mot pour peur. Elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Puis ça, c'est la fin de ma lecture. Et en passant, pourquoi j'arrête la lecture là? Parce que dans beaucoup de manuscrits anciens où on voit c'est quoi la version originale ou les versions originales de l'Évangile de Marc, on voit qu'il y en a une qui arrête là. OK? Donc, ça veut dire que dans plusieurs manuscrits anciens, l'Évangile de Marc se termine au verset 8. On va explorer un peu cette fin bizarre. Elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Point la fin. Et il y a d'autres, c'est assez particulier pour l'Évangile de Marc, il y a comme deux versions. Il y a la version courte, qui finit comme je viens de vous le lire, en queue de poisson. Et puis, une autre version avec la fin plus longue où les apparitions de Jésus sont racontées. Et puis, Jésus, finalement, après les apparitions, il rencontre les 11 qui sont réunis. Judas n'est plus là. Et puis, il leur explique quoi faire. Et puis, il les envoie dans le monde. Et puis, les disciples partent et puis, c'est glorieux. Il y a deux, et c'est comme si Dieu avait demandé à Marc, ou avait permis à Marc d'écrire deux versions de son évangile. Nous qui croyons à l'inspiration de la Bible, alors, moi, j'arrive à la conclusion que les deux versions sont inspirées de Dieu. Autrement dit, qu'il y aurait quelque chose à retirer du fait que l'évangéliste Marc aurait écrit sa première version qui se termine comme je viens de vous la lire. Qu'est-ce que ça communique? Quelle est la leçon que Marc voulait nous enseigner avec cette fin-là? Je pense que beaucoup tournent autour de la question de la peur et du silence. J'ai quelques observations à faire sur ce texte. Premièrement, au verset 1, Marc 16, 1, on voit que les femmes arrivent au tombeau avec les aromates et en fait, on constate que c'est pas du tout pour aller voir s'il est ressuscité ou pas. Même si Jésus leur a dit plusieurs fois, vous allez voir, je vais ressusciter, puis on voit que les disciples comprennent pas. Et les femmes qui arrivent au tombeau, elles arrivent avec les aromates vraiment selon la coutume habituelle du monde juif de cette époque d'embaumer les morts. Donc, elles vont pour retrouver Jésus de Nazareth, son cadavre mort, pour faire qu'est-ce que feraient normalement des disciples envers un enseignant défunt ou n'importe quel membre de famille. Pourquoi est-ce qu'on embaumait avec des parfums? C'est parce que à cette époque, et j'espère que c'est pas trop lugubre ce que je vais dire, mais c'était dans les traditions dans cette région-là du monde d'ouvrir la tombe ou en tout cas s'approcher de la tombe pour prier Dieu et honorer le défunt. On ne priait pas nécessairement les morts, ça c'était proscrit, mais en tout cas dans le judaïsme, mais on voulait honorer sa mémoire, et on a même, des archéologues ont découvert certains tombeaux à Jérusalem, donc dans le coin où Jésus a été enterré, il y a des tombes avec, c'est pas haut les tombes, là, c'est comme, faudrait quasiment ramper pour rentrer, mais il y a comme un trou, et on a déterminé que quelqu'un qui allait se recueillir à la tombe pouvait rentrer dans la tombe et se mettre debout, parce qu'il y avait comme un trou qui permettait d'être debout sans que ta tête frappe le haut. Et donc, mais ça, c'était quand même un tombeau, un corps humain, ça sent mauvais, donc on devait embaumer pour que les gens puissent aller se recueillir auprès du tombeau ou dans certains cas, dans le tombeau. L'autre Marie, Salomé, non, même si Jésus leur a dit, je vais ressusciter, elles n'ont pas catché, elles n'ont pas compris, elles viennent tout simplement honorer leur maître et c'est déjà bien, mais l'ange qui est là, leur fait un reproche, il n'est pas ici. C'est un peu comme s'il leur disait, pourquoi le cherchez-vous ici? Il n'est pas ici. Il a dit qu'il allait ressusciter. En fait, il est déjà rendu en Galilée. Il attend les disciples là-bas. Alors, je crois qu'il faut voir que Dieu, dès le départ, il est plein de bonté pour les disciples qu'il est en train d'attirer à lui, plein de bonté parce qu'il comprend leur lenteur à croire, même si il va le leur reprocher. Et souvent, Jésus va dire aux disciples, « Oh, que vous êtes lents à comprendre et à croire. » Mais Dieu, dans sa bonté, il nous aide à comprendre que vraiment, le Jésus ressuscité est là, il est puissant, il veut transformer nos vies, il veut nous utiliser. Et on le voit ici déjà avec les premières disciples. Donc, gardons confiance que Dieu est en train de nous former. Une deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que les femmes deviennent épouvantées. Hein? Et on le voit déjà, c'est dès qu'ils voient l'homme habillé de blanc, il est mentionné qu'elles sont épouvantées. Hein? Elles furent au verset 5. Alors, c'est pas nécessairement le tombeau vide, la pierre qui est roulée, qui les épouvante, bien que ça a dû les déstabiliser. Mais ça semble être quand elles se rendent compte que il y a un ange qui est là. Le blanc est le symbole de l'être divin. Il leur dit ceci, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Donc déjà, on voit que Dieu est en train de les former. Et ce qu'on voit, c'est que quand des disciples viennent à l'encontre, viennent à la rencontre plutôt, ou que Dieu vient à la rencontre des disciples, ça cause toujours une certaine peur, une certaine épouvante. Je pense qu'on ne peut pas venir en contact avec l'œuvre de Dieu sans que ça vienne nous déstabiliser. On le voit toujours dans la Bible. On voit Moïse qui, quand il se rend compte que le buisson ardent, au début ça le fascine, mais quand il se rend compte que c'est vraiment Dieu qui lui parle, il a peur et il cache son visage, est-il dit, parce qu'il a peur de voir Dieu face à face. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Quand Jésus invite les disciples, les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, à monter sur la montagne avec lui, et puis ils ont une expérience de cette transfiguration, eux aussi, ils ont peur. Ça commence avec la peur. Mais vous savez, il y a deux sortes de peurs dans la Bible. Il y a une peur qui nous éloigne de Dieu. Ceux qui se disent, ben là, les choses de Dieu me font peur et je veux plus rien savoir. Ça, c'est la peur qui mène à la mort. Hein? Et il faut prier que ceux qui vivent la peur n'aient pas cette peur-là. Parce qu'il y a une autre peur qui nous rapproche de Dieu. Et nous allons voir que ces femmes quittent le tombeau, elles sont épouvantées, mais on va comprendre par la suite qu'en fait, leur peur à elles, c'est une peur qui va les rapprocher de Dieu, qui va les mobiliser pour son service. Une troisième remarque, c'est qu'il est question de silence. Les femmes, au verset 8, quittent le tombeau. Qu'est-ce qui est dit exactement? Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent. Elles s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes. Mais elles ne disent rien à personne à cause de leur effroi. C'est vrai que des fois la peur nous fait tellement d'effet qu'on préfère rester silencieux. Hein, des fois, on vit des expériences tellement fortes qu'on sait intérieurement qu'il faut en parler, mais on ne peut pas. On sent que c'est mieux de rester silencieux. Puis c'est correct de rester silencieux, en tout cas pour un temps. Je pense qu'il y a des gens qui sont fidèles à ce que Dieu leur demande de faire. Il y a beaucoup de gens, même dans cette église, qui ont un ministère, mais au fond, restent silencieux, font leur ministère d'une manière fidèle, d'une manière obéissante, et c'est correct, ça. Un peu comme ces femmes qui s'enfuient, mais on apprend par d'autres textes qu'elles se sont enfuies, elles vont aller voir les disciples. Et en chemin, Jésus va leur apparaître. Puis Jésus va leur dire, effectivement, je suis ressuscité. Et puis donc, elles vont avoir le courage, par cette deuxième expérience, d'aller parler aux disciples et leur dire que Jésus est vraiment ressuscité. Mais ça commence par le silence. Je pense que le silence est important dans nos vies et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on encourage tout le monde à prendre des moments seul avec Dieu pour rechercher sa face, rester en silence devant lui. C'est dans le silence qu'on est capable de lui dire, je ne sais pas quoi faire, c'est quoi la prochaine action que je dois faire, Et c'est dans ces moments-là aussi que le Saint-Esprit que Jésus nous donne le prochain, nous dit le prochain pas à faire. Quatrième observation que j'aimerais mentionner brièvement, et je l'ai déjà dit, Jésus est allé au-devant d'elle. On l'apprend plus tard. Marc, qui termine son évangile avec un point d'interrogation, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles partent et puis elles sont dans le silence, dans la crainte. Le lecteur qui lit ça peut se poser la question, est-ce qu'elles sont restées silencieuses? Mais en fait, le lecteur, c'est qui? C'est des chrétiens dans les églises et à qui on lit l'évangile de Marc. C'est évident, elles ont fini par parler. Grâce à leur témoignage, le début de l'évangélisation a commencé. Jésus est venu à leur aide, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire aussi que Jésus a choisi comme premier témoin de la résurrection des femmes qui finalement, et surtout dans ce contexte-là, les femmes avaient pas vraiment beaucoup d'autorité dans la société. Et on va le voir dans les passages où elles parlent aux apôtres et leur disent « On l'a vu ressusciter, on a vu le tombeau vide. » Ben les apôtres les croient pas et vont même dire « Mais ça, c'est des histoires de femmes, ça. C'est pas la réalité. » Mais ça nous rappelle que qui que tu sois, qui que nous soyons, si tu te sens faible, si tu te sens pas très important, si Jésus il a commencé le témoignage de la résurrection avec des femmes qui dans cette société-là étaient des personnes sans autorité, sans droit de vote entre guillemets, eh bien il peut se servir de toi. Il peut se servir de ta parole. Et puis aussi, il va venir t'aider. Il va venir te donner le courage qu'il faut pour faire ce que tu as à faire dans la chaîne. OK? Et donc, peut-être que tu es juste mère de famille. Enfin, juste mère de famille. Peut-être que tu es juste mère de famille en ce moment. Mais tu vas peut-être jouer un rôle clé au niveau de l'Évangile. Pour transmettre l'Évangile et la foi en Jésus à un enfant qui va avoir un impact plus tard dans sa vie. Peut-être que tu es juste un père de famille à la maison, et oui, ça existe de plus en plus, et tu peux avoir un impact dans la vie d'un enfant, tu peux avoir un impact dans tes contacts de tous les jours. Tu es peut-être dans la souffrance en ce moment parce que tu vis des situations financières difficiles, situations d'emploi oppressantes. Peut-être que tu cherches de l'emploi et tu sens que tu ne vaux pas grand-chose. Dieu peut utiliser ta parole, même aujourd'hui, pour être témoin de ce que toi tu sais sur le Christ ressuscité. Puis si t'as peur, mais demande à Jésus de venir te donner du courage et de la force. Il veut le faire, il est là pour le faire. Sois un témoin cette semaine et confie les résultats au Dieu de la résurrection. J'aimerais terminer avec un dernier commentaire, c'est sur la ou observation, c'est sur la phrase « Jésus est en Galilée ». Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de comparer les textes qui parlent des apparitions de Jésus-Christ. C'est mélangeant. C'est comme, on dirait qu'il apparaît à Jérusalem, on dit qu'il s'en va en Galilée, il est... Moi, la manière que je réagis à ça, je dis, il est vraiment indépendant. Le Christ ressuscité, il est un petit peu partout. Comme je disais, il se promène sur la terre et c'est vrai, en fait, parce que nous, on sent sa présence ici, mais peut-être en Suisse, dans votre église, aujourd'hui, ils sont en train de ressentir la même chose. Il y a des églises en Haïti et partout que le Christ ressuscité se promène partout. Et en fait, on peut pas vraiment le saisir. Et c'est un peu ambigu et paradoxal ce que je dis. On va dire souvent « Jésus est en moi et je suis en lui », comme quoi on est collé à Jésus. Puis en même temps, il nous échappe. On veut le suivre et puis des fois on sait pas ce qu'il nous demande et puis on, en tout cas souvent dans les GBU, moi je suis désemparé et déstabilisé par Jésus, en fait, parce que on fait comme des plans pour l'année. Ok, bon, cette année on investit sur tel campus et puis ça marche pas. On fait des plans, puis ça marche pas. Mais on reçoit un coup de téléphone, puis d'une autre région, puis là, c'est comme, oh, mais là, il y a comme un renouveau dans notre région. Il y a des étudiants qui ont parti un groupe, puis on a besoin de votre aide. Et puis là, on doit changer notre plan. Jésus est sauvage. C'est un Christ ressuscité sauvage. Et puis, oui, il faut lui faire confiance et il faut pas avoir trop peur de lui, mais il faut respecter son indépendance. C'est lui le boss, c'est lui qui nous mène là où il veut qu'on aille. Et c'est pour ça qu'il dit aux femmes, dis à Pierre et aux autres d'aller en Galilée parce que je suis là-bas. Nous avons affaire à un sauveur ressuscité qui est imprévisible. Donc, tout ça, j'espère que tout ça va nous amener à la joie. Hein? J'ai dit au début, on va maintenant célébrer la scène, et puis on est ici à cause d'un Seigneur qui est ressuscité. Il est vivant, il est une personne qui c'est comme une il est le Christ ressuscité. Oui, il vit en nous, nous vivons en lui. Il est puissant et nous le suivons. Et si nous participons à ce repas, c'est pour dire que nous lui appartenons, pour lui dire que nous reconnaissons que chaque personne qui est ici, tous les chrétiens du monde, en fait, font partie de son peuple. On doit les accepter tels qu'ils sont. Et ça, c'est quelque chose de réjouissant, parce qu'eux doivent nous accepter tels que nous sommes. Et puis qu'on a un travail qui nous attend. C'est pas des vacances. Et déjà cette semaine, on va se mettre à l'œuvre. Faut pas oublier aussi qu'il nous a promis la vie éternelle. Fait que donnons-lui tous nos efforts. Parce que nous aurons un repos vraiment merveilleux après. Entre-temps, invitons le plus de gens possible à se joindre à nous, comme Marie, les deux Marie et Salomé ont fait au début de l'Évangile. Prenons un moment maintenant pour prier avant qu'on s'approche de la table. Et s'il y a des personnes qui aimeraient élever la voix pour remercier Jésus pour toutes les choses dont on a parlé aujourd'hui, allez-y. Vous pouvez prier à voix haute et on va prier avec vous.